VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce mardi 12 mai 2015. À la une ce soir.
Au Burundi, la crise perdure. La mobilisation se poursuit contre la candidature du président à un troisième mandat.
Au moins 6 personnes ont été tuées dans un nouveau massacre à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Les partis politiques sankaristes entendent désigner un candidat unique pour l'élection d'octobre au Burkina Faso.
Nouvel appel du président tchadien Idriss Déby Itno à une meilleure coordination entre les armées de la région luttant contre Boko Haram au Nigeria.
Rencontre aujourd'hui en Russie entre le président Vladimir Poutine et le secrétaire d'État américain John Kerry. Nous reviendrons sur les enjeux.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burundi, c'est toujours la mobilisation contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Un sommet régional se tient demain à Dar es Salaam pour tenter de trouver une sortie de crise. Idriss Fall.
Un manifestant a été tué par balle aujourd'hui dans le quartier Buterere, près de l'aéroport de Bujumbura. Deux autres personnes sont mortes cette nuit suite à l'explosion d'une grenade dans une maison de Kanyosha. Ce quartier a souvent été le théâtre d'affrontements avec les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. La crise a déjà fait au moins 20 morts. Les chefs d'État de la communauté est-africaine se réunissent demain à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter de trouver une solution. Linda Greenfield Thomas, la dame Afrique du département d'État américain, va participer à ce sommet. Washington est contre la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. L'Union européenne a suspendu son soutien financier au processus électoral et demande un report des élections. Mais le président burundais a lancé hier la campagne du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, en vue des législatives du 26 mai qui seront suivies un mois après par l'élection présidentielle.
République centrafricaine, plusieurs centaines de personnes, dont certaines en tenue militaire, ont érigé des barricades à Bangui, la capitale. D'après l'AFP, les protestataires dénonçaient les décisions du Forum de réconciliation de Bangui et exigeaient le départ de Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition.
Nouveau massacre à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la nuit, malgré l'opération Ville morte illimitée, lancée par la société civile contre l'insécurité dans la région. Le point avec Eddie Isango.
Les habitants de Beni ont manifesté mardi matin pour protester contre ce nouveau massacre, interrompant brièvement la ville morte illimitée. La police a tiré en l'air pour disperser les protestataires, selon un témoin contacté par VOA Afrique. Les 6 victimes ont été abattues à Kalongo, un quartier situé près de l'aéroport de Mavivi, par un groupe d'hommes en uniforme militaire armé de machettes et autres armes blanches. L'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda, a attribué l'attaque aux ADF. Selon lui, l'armée est intervenue lundi soir et a pourchassé les assaillants qui sont rentrés dans la forêt. La société civile dénonce l'insuffisance d'action contre les massacres répétés dans la région de Beni. Selon Kizito Hang de l'ONG Asado à Beni, la société civile exige un changement du commandement de l'offensive de l'armée à Beni. La mission des Nations Unies au Congo avait aussi formulé presque les mêmes exigences, accusant les officiers à la tête de l'offensive de l'armée congolaise dans la région de graves crimes. Les gouvernements n'ont pas cédé et depuis, l'armée congolaise mène seule l'offensive contre les groupes armés.
Présidentielle au Burkina Faso, les partis politiques sankaristes entendent désigner un candidat unique à l'élection d'octobre. Ces formations défendent les idéaux du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État. Ils sont en plein préparatif d'une convention d'union qui va regrouper 9 partis, a fait savoir Nestor Bassière, le vice-président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste.
Crise au Mali, réunis à Alger, les ministres français et algériens des Affaires étrangères, Laurent Fabius et Ramtan Lamamra, appellent toutes les parties à signer vendredi à Bamako l'accord d'Alger. C'est ce que rapporte l'AFP. Ce texte a été paraphé le 1er mars dans la capitale algérienne par le camp gouvernemental, mais pas par la rébellion. Malgré les violations répétées du cessez-le-feu au Mali depuis 2 semaines, la communauté internationale tente d'arracher la signature d'une partie au moins de la rébellion à dominante Touareg.
Notons également que le président français François Hollande envisage de se rendre prochainement en Algérie. a déclaré aujourd'hui à Alger le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius.
L'épidémie de méningite au Niger, le bilan s'avère, s'élève déjà à 358 morts sur 5273 cas suspects recensés depuis janvier. L'organisation Médecins sans frontières dit avoir renforcé ses activités avec près de 430 lits pour assurer la prise en charge médicale gratuite des malades. La capitale Niamey est particulièrement affectée avec près de 1200 admission la semaine dernière, révèle MSF cité par l'AFP.
Le Niger a voté une loi contre les trafiquants de migrants africains illégaux vers l'Europe. Le texte prévoit des peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, un nouveau séisme a secoué le Népal, déjà dévasté il y a deux semaines par un tremblement de terre. Ce nouveau séisme a tué au moins 48 personnes, selon les autorités, et 17 autres dans le nord de l'Inde. Nicolas Pinault.
Il était midi et demi, heure locale, quand la terre s'est mise à trembler à nouveau à 76 km à l'est de Katmandou. Selon l'Institut américain de géophysique, le séisme était d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti à New Delhi en Inde et provoqué l'effondrement de bâtiments au Tibet. L'aéroport de Katmandou, porte d'entrée principale de l'aide internationale, a rouvert après avoir été fermé quelques heures par précaution. Même si cette dernière secousse ne semble pas aussi grave que celle du 25 avril, les habitants de la capitale népalaise ont été pris de panique à l'idée que ces nouveaux séismes entraîneraient l'effondrement de bâtiments déjà très endommagés. La police népalaise a exhorté la population à rester à l'extérieur et à éviter d'encombrer le réseau mobile. Je vous rappelle que le séisme du 25 avril a tué au moins 8000 personnes au Népal et une centaine en Inde et en Chine. Des dizaines de milliers de Népalais sont aujourd'hui sans abri.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine dans la cité balnéaire de Sotchi. C'est la première visite du chef de la diplomatie américaine en Russie depuis que les relations se sont détériorées entre Washington et Moscou pour de sérieux désaccords sur l'Ukraine et la Syrie. Félix Yepassi-Zembo.
Avant de rencontrer Poutine, John Kerry a eu des entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pendant plus de 4 heures. C'est la première rencontre au plus haut niveau entre les États-Unis et la Russie depuis le début de la crise en Ukraine à la fin de 2013. Le département d'État américain a précisé que le chef de la diplomatie américaine et le président Poutine discuteraient d'une gamme complète de questions bilatérales et régionales, dont l'accord nucléaire avec l'Iran, le Yémen et la Libye dans le cadre d'un effort continu pour s'assurer que les vues des États-Unis soient clairement transmises. Kerry pourrait avoir testé la volonté de M. Poutine de faire respecter par les séparatistes pro-russes en Ukraine l'accord de cessez-le-feu fragile et prendre le pouls de l'étendue du soutien de la Russie au président syrien Bachar al-Assad, dont les forces ont subi récemment des défaites après un peu plus de 4 ans de guerre civile. Les États-Unis veulent une transition politique pour mettre fin à 45 ans de règne familiale à Damas. Le voyage de Kerry intervient à un moment où les relations entre Washington et Moscou ont chuté à des niveaux équivalents à ceux d'après la guerre froide, sur fond de désaccords au sujet de l'Ukraine et de la Syrie. Cette mission semblait conçue, selon toute vraisemblance, pour maintenir le contact que toute autre chose.
La visite en Russie du secrétaire d'État américain, coïncide avec la publication d'un rapport faisant état d'au moins 220 soldats russes morts durant les combats en Ukraine au cours des 12 derniers mois. Selon ce document de 64 pages préparé par l'opposant Boris Nemtsov, avant son assassinat, l'armée russe avait contraint ses soldats à résilier leur contrat avant de les envoyer en Ukraine comme volontaires. Le ministère de la Défense dit Nemtsov avait promis de dédommager les familles des militaires tués ou blessés, mais ne l'a pas fait. Les autorités russes ont toujours nié tout appui aux séparatistes de l'Est ukrainien et le Kremlin s'est aujourd'hui refusé à tout commentaire sur ce rapport.
Au Yémen, un cessez-le-feu qui devrait faciliter la livraison d'aide humanitaire pendant les 5 prochains jours devait entrer en vigueur ce soir. Les raids de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont continué jusqu'à fort tard dans la nuit d'hier et à la suite de ces bombardements massifs, un secteur de la capitale Sanaa, classé au patrimoine mondial de l'humanité, aurait été gravement endommagé. L'UNESCO a condamné ce qu'elle appelle des atteintes au patrimoine culturel unique du Yémen. Parmi les sites visés, il y a les maisons de Pisée, les mosquées et les hammams qui datent d'avant le XIe siècle.
Le président irakien Fouad Massoum est arrivé aujourd'hui à Téhéran pour une visite officielle de 2 jours en Iran. Selon l'AFP, les discussions devaient porter entre autres sur la lutte contre le groupe extrémiste sunnite État islamique et la coopération économique entre Téhéran et Bagdad. L'Iran a fourni une aide militaire au gouvernement et aux Kurdes irakiens pour contrer l'offensive lancée en juin 2014 par les djihadistes.
Le président français François Hollande a réaffirmé l'engagement de la France à aider Haïti, mais il n'a pas répondu aux attentes de ceux qui réclament le remboursement de la dette de l'indépendance du pays. M. Hollande a été accueilli aujourd'hui à Port-au-Prince par son homologue haïtien Michel Martelly après une visite historique à Cuba. De son côté, le président Martelly a déclaré qu'aucun marchandage, aucune compensation ne peut retaper les accros de l'histoire qui nous marque si profondément encore aujourd'hui. Haïti n'a pas oublié, mais elle n'est pas non plus obstinée, a dit Michel Martelly. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco, ce soir avec Nicolas Pinault.
On commence par la baisse de l'inflation en Côte d'Ivoire. 1,4% pour le mois d'avril contre 1,7% en mars, selon l'Institut ivoirien de la statistique. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, représente 40% de la zone France CFA, dont elle est la première économie. On parlait pétrole ce mardi à Genève, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et le Ghanéen John Dramani Mahama ont discuté du différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. L'enjeu, c'est l'exploitation offshore du pétrole au large des côtes des deux pays. Coton burkinabé, production record attendue pour la prochaine récolte. Le gouvernement burkinabé estime pouvoir récolter 800 000 tonnes de coton pour la campagne 2015-2016. Les autorités de la transition ont augmenté le prix d'achat du kilo de coton pour atteindre 235 francs CFA pour le coton graine, premier choix. Enfin, une usine d'assemblage de tramway construite en partenariat entre le français Alstom et 2 entreprises publiques algériennes a été inaugurée ce mardi dans la région d'Annaba, c'est dans le nord-est de l'Algérie. Je vous rappelle qu'Alger, Oran et Constantine sont déjà dotés de tramways en Algérie et 13 autres projets sont actuellement à l'étude dans le pays.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nicolas.
Place au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Football, demi-finale, retour de la Ligue des Champions en Europe.
Eh bien, la tâche s'annonce difficile pour les Allemands parce qu'il faudrait museler Messi et sa compagnie tout en marquant au moins 3 buts. Tel est donc l'exploit que doit réussir le Bayern Munich de Pep Guardiola face au FC Barcelone ce soir à Munich pour entretenir le rêve d'une finale de Ligue des Champions à Berlin. Ce scénario s'annonce difficile pour un Bayern corrigé 3-0 au Camp Nou lors du match aller. La chute du malheureux Jérôme Boateng est humiliée par un crochet de Messi sur la deuxième réalisation catalane a fait le tour des réseaux sociaux et le défenseur allemand est devenu à son corps défendant le symbole de la déroute du géant bavarois.
Et demain, l'autre demi-finale?
Oui, au stade Santiago Bernabéu, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, tentera de remonter son retard de l'aller. La Juventus Turin l'avait battu donc à l'aller 2-1.
Et on reparle de Mr. George.
Oui, l'ancien capitaine de la Lone Star du Liberia, George Weah, a fait son entrée officielle au Parlement de la CDAO. L'ancien joueur du PSG a été élu sénateur du Liberia en décembre dernier. Mr. Weah a prêté serment hier à Abuja.
Et basketball professionnel, la NBA, résultat hier soir, Bagassi.
Oui, les Wizards ont perdu ici au Verizon Center de Washington contre Atlanta 101-106 et au FedEx Forum de Memphis dans le Tennessee. Les Grizzlies de Memphis ont également perdu 84-101 contre les Golden State Warriors.
Il faut reconnaître que c'était quand même un beau match entre Washington et Atlanta. Les deux équipes sont pratiquement à égalité en termes de jeu.
2-2.
Donc tout est possible dans cette série.
Ouais.
Voilà.
On verra.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
En Centrafrique, le forum de Bangui, considéré par d'aucuns comme celui de la dernière chance, s'est achevé hier par l'adoption de plusieurs dizaines de recommandations, dont la prolongation de la transition et le report des élections présidentielles et législatives. La veille, le gouvernement et 9 groupes armés ont signé un accord de DDR, désarmement, mobilisation et réinsertion. Maître Mathias Marouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, revient sur le volet justice, l'une des thématiques débattues au cours de ces assises. Nous l'écoutons au micro de Félix Yepassi Zembrou.
Le forum de Bangui a été une occasion où le peuple centrafricain a pu s'exprimer librement sur les questions qui touchent à l'avenir de ce pays. Et le peuple centrafricain s'est réconcilié avec lui-même. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui a marqué chaque participant et chaque participante à ce forum.
Maître, vous avez présidé la commission justice et réconciliation lors de ces assises. Qu'en est-il justement du volet justice?
Nous avons dit au cours de nos débats que l'impunité est zéro. Nous pensons qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont commis du tort au peuple centrafricain doivent s'expliquer devant la justice centrafricaine, doivent s'expliquer devant la justice tout court, et que les victimes doivent recevoir réparation de l'ensemble des préjudices en subi. Et nous avons aussi pensé que l'heure est venue pour que tout le peuple centrafricain puisse se réconcilier avec les autres et que ceux qui sont chrétiens ou musulmans doivent se tenir la main. Et pour marquer cette volonté de réconciliation du peuple centrafricain, nous avons tous accepté de faire légaliser dans les meilleurs délais les deux fêtes, la fête de Ramadan et la fête de Tabassi, pour nous permettre aux uns et aux autres d'être ensemble ce jour-là.
Selon vous, la création de la Cour pénale spéciale sera-t-elle effective?
La Cour pénale internationale a déjà été créée par la loi. Nous attendons la promulgation de cette loi et son opéralisation. Donc c'est une priorité pour nous aujourd'hui. Nous pensons que dans les meilleurs délais, la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine sera opérationnelle et que les juges et les avocats et le personnel de cette juridiction vont se mettre à l'œuvre pour permettre à toutes les victimes de notre pays de vouloir saisir cette justice-là et de se faire entendre.
Quand vous parlez, maître, de justice, vous pensez implicitement aux anciens chefs d'État, François Bozizé et Michel Dotodia, qui ont été les principaux acteurs de cette crise centrafricaine?
Il n'y a pas que les deux. Il y a tous ceux qui ont causé du tort au peuple centrafricain doivent s'expliquer devant la justice. Il y a certes la justice centrafricaine, la justice locale, mais il y a aussi la justice internationale qui, chacun de son côté, va faire en sorte que les victimes puissent être entendues et que les réparations soient allouées à ces différentes victimes.
Maître Mathias Marouba, président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré ce jeudi au Burundi. Malgré la pression de la rue et les appels de la communauté internationale, Pierre Nkurunziza persiste, il est candidat pour un troisième mandat à la tête du pays. Où va le Burundi alors que le scrutin présidentiel se rapproche à grands pas? Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et à jeudi 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Nouvel appel du président tchadien Idriss Déby Itno à une meilleure coordination entre les armées de la région luttant contre Boko Haram au Nigeria. Le chef de l'État tchadien s'est entretenu hier à Abuja avec son homologue nigérian Goodluck Jonathan et le président élu Muhammadu Buhari. Bien que l'aide des pays voisins ait permis au Nigeria de pousser les islamistes dans leur dernier retranchement, Abuja reste ambivalent à ce sujet. Timothée Donangmaï a joint Houdou Ayouda, il est professeur des relations internationales à l'université Ahmadou Bello de Zaria, dans le nord du Nigeria.
Depuis avant les élections, il y a eu un peu un décrochage entre l'armée tchadienne, nigérienne et camerounaise. Vous savez, le Tchad est intervenu jusque dans le territoire nigérien quand les forces nigériennes avaient des problèmes. Mais depuis plus d'un mois, l'armée nigérienne a été réorganisée sur le terrain, sur le plan tactique. Ils essayent de faire, disons, chambre à part. L'armée nigérienne a repris du poil de la bête. Bon, ils essayent parce que pour eux, c'était un déshonneur de voir que c'est l'armée tchadienne qui se bat contre Boko Haram sur le territoire nigérien. Et je pense que c'est la raison. Et puis, vous savez, Bédio aussi a fait des déclarations avant, montrant que c'est le Tchad, en sorte, qui peut combattre Boko Haram, hein, avec le succès enregistré depuis un certain temps. Je pense que l'armée nigériane ne veut pas coopérer ou bien joue seul le jeu sur le terrain.
Est-ce à dire donc que c'est une question d'amour propre avant tout?
Justement, c'est une question d'amour propre. Vous savez, la position du Nigeria en Afrique, si le Nigeria était au Libéria, le Nigeria était au Sierra Leone, et puis le Nigeria participe à beaucoup de forces de maintien de la paix. Et si à l'intérieur du pays, le Nigeria ne peut pas assurer sa propre sécurité, vous voyez, c'est un problème d'amour propre. Je pense que c'est l'armée sur le terrain qui n'arrive pas, qui refuse, ça c'est le terme, de coopérer avec les autres. Quoi.
Quel crédit le Nigeria accorde aujourd'hui au Cameroun, au Tchad et au Niger pour l'aide apportée dans la lutte contre Boko Haram?
Vous savez, on est dans une période de transition. On ne sait pas ce que le nouveau gouvernement fera à la fin de ce mois. Mais sur ce plan de transition, Jonathan veut en sorte laisser le pouvoir en laissant le Nigeria sans Boko Haram. Donc l'action est plus centrée sur le plan intérieur.
Houdou Ayouda, il enseigne les relations internationales à l'université Amadou Bello de Zaria, dans le nord du Nigeria.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondjouchi.
La Commission européenne devrait proposer demain sa stratégie pour l'immigration. Les nombreux drames survenus récemment en Méditerranée ont amené la Commission à anticiper son projet. Salwa Jafari nous parle des grandes lignes de ce texte et l'impact qu'il pourrait avoir sur les pays concernés.
Lampedusa, station balnéaire autrefois havre de paix, ne l'est plus depuis longtemps. Des navires militaires patrouillent au large de sa côte, prêts à secourir les milliers de migrants encore préparés à risquer la traversée de la Méditerranée vers l'Italie. Par ailleurs, l'île a dû trouver un logement temporaire pour des dizaines de milliers de migrants avant qu'ils ne soient transportés vers d'autres destinations. Pour les riverains, la situation est insoutenable, nous dit Giuseppe Greco, un pêcheur local.
Je souhaite qu'ils fassent quelque chose, que l'Italie et l'Europe pensent à ce sujet. Espérons qu'ils résolvent le problème bientôt, sinon cela finira mal.
Francine Wenuma, présidente de l'association Save the Children, ajoute. L'année dernière, l'Italie a reçu 170 000. Cette année, elle en a reçu plus de 32 000. Nous pensons qu'il est important qu'il y ait une responsabilité partagée pour ces migrants qui ont fait la traversée. Partager la responsabilité des migrants, l'Union européenne ne cesse de marteler cet appel. La Commission de l'UE devrait dévoiler demain un plan qui va appeler à partager, à travers un système de quotas, le nombre de migrants légaux dans le bloc européen, afin d'alléger le fardeau des États du sud de la région, notamment l'Italie. Les grandes lignes du projet sont connues, d'autant qu'elles ont été ébauchées devant le Parlement européen. Il entend conforter le rôle de l'agence de surveillance des frontières, Frontex, amplifier la lutte contre les passeurs, renforcer le système de protection pour les réfugiés, accélérer le retour des illégaux et ouvrir le dossier de la migration économique. Le texte pourrait préciser dès lors que la migration légale serait possible pour des personnes dotées de compétences recherchées en Europe afin de pallier certaines pénuries de main-d'œuvre, quitte sur ce point à prendre le contre-pied d'une partie des membres de la Commission. Écoutez sur ce point le plaidoyer de Federica Mogherini, haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Finalement, l'Union européenne se rend compte qu'elle doit prendre plus de responsabilités de manière très active et rapide. Il faut qu'il y ait un même niveau de prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble à l'échelle mondiale, notamment par le Conseil de sécurité, par le système des Nations unies et au niveau national.
Les chefs d'État n'ont jusqu'ici pu se mettre d'accord sur un projet qui pourrait prendre en compte le taux de chômage, le nombre d'habitants et le nombre de réfugiés dans un pays pour fixer le nombre de personnes qu'ils devraient accueillir.
L'islam radical est devenu une des priorités sécuritaires dans beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qui attire tellement certains jeunes dans l'idéologie islamiste ? La correspondante de la VOA à Paris, Lisa Bryant, a rencontré Mourad Benchelali, qui lui avoue ne pas avoir la réponse. Leur entretien vous est résumé ici par Lionel Gaïma.
Si tout s'était passé comme il avait envisagé, la vie de Mourad Benchelali aurait été fort différente et il ne serait pas engagé dans sa campagne actuelle d'aucun direct croisade contre les dangers du militantisme islamiste. Il y a 14 ans, il avait un emploi et une fiancée, mais tout a basculé quand il s'est rendu en Afghanistan et est tombé dans un piège tendu par son propre grand frère qui, au lieu des vacances promises, l'a amené dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Quelques mois plus tard, il était prisonnier dans le camp américain de Guantanamo. De retour aujourd'hui à Vénissieux, une banlieue dure de Lyon, Benchelali raconte son histoire aux jeunes gens, les exhortant à y réfléchir par deux fois avant de rejoindre les djihadistes au Moyen-Orient.
Alors, ils n'auront pas toutes les réponses, parce que moi, chaque histoire est personnelle, mais il y a quand même quelques clés qui leur permettent de comprendre.
Selon l'analyste Mansouria Mokefi, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, les autorités françaises sont elles aussi à la recherche de réponses.
The most important questions today are why are these young people?
La question la plus importante aujourd'hui, c'est pourquoi ces jeunes gens quittent la France et surtout quel échec en France pousse ces jeunes à aller participer à un djihad. Ce genre de questions que l'on se pose en France, mais particulièrement dans les endroits comme Vénissieux, où le taux de chômage est élevé et des trafiquants de drogue se cachent dans l'ombre. C'est là que Benchelali a grandi. C'est là que son grand frère s'est laissé séduire par l'islam radical. La duplicité de ce dernier lui a coûté cher et à cause de lui, il a passé 30 mois à Guantanamo avant son transfèrement en France. Il a écrit un livre sur son expérience intitulé « Voyage vers l'enfer ».
On disait de moi, à ma sortie de prison, que j'étais un terroriste, enfin, un islamiste radical, un danger public. J'en avais marre. Donc je voulais aussi raconter ma vérité, ma version de l'histoire.
Au début, très peu de Français étaient intéressés par son histoire, mais la peur croissante de l'islam a changé les attitudes. La mère de famille, Shahrazad Bouri, est convaincue aujourd'hui que Benchelali pourra aider à dissuader les jeunes.
Parce que nous, déjà, c'est un jeune. On sent qu'il est très franc. Il parle franchement de ce qu'il a vécu.
Malgré tout, l'analyste Mokefi pense que, certes, Benchelali peut aider, mais il ne peut pas à lui tout seul contrer la propagande des extrémistes islamistes.
Yes.
Oui, il peut jouer un rôle important en communiquant, en expliquant, mais dissuader, je ne suis pas si sûr. Benchelali a reconstruit sa vie, son calvaire s'est fini, mais il a peur que ce soit le début pour d'autres jeunes gens.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci Lionel Gaïma. Alors, une question vraiment importante, Morgane. Et oui. La France aimerait sans doute avoir une réponse à cette question parce que, selon Paris, quelques 1500 citoyens français ont quitté leur pays pour rejoindre les groupes djihadistes au Moyen-Orient. Et c'est le plus grand nombre en Europe de l'Ouest.
Cette édition touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
On remercie Souley, notre ami à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr, on est ensemble 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.